1 Samuel 18, versets 1 à 4. Pendant que David achevait de parler avec Saül, Jonathan, le fils de Saül, se prit d'affection pour le jeune homme et se mit à l'aimer comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David auprès de lui. Il ne laissa pas retourner chez son père. Quant à Jonathan, il aimait tellement David qu'il conclut un pacte d'amitié avec lui. Il ôta le manteau qu'il portait et le lui donna. Il lui offrit également son habit militaire, et même son épée, son arc et son ceinturon.
Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bon sabbat. Et je voudrais tout particulièrement remercier nos exploits pour nous avoir proposé une liturgie innovante qui, à n'en pas douter, donne un côté naturel et apprécié à notre matinée. Nous permet en même temps de pratiquer ce don exceptionnel que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, Laurent, notre capacité d'adaptation. D'ailleurs, si nous sommes capables de tout cela ce matin, mais d'une façon générale tout le temps, c'est peut-être et aussi parce que nous sommes capables d'amitié, et voilà d'emblée lancer le thème que je voudrais et que nos amis explorent. Ici en chaire, au premier banc et peut-être ailleurs, ont proposé pour la thématique de notre matinée, l'amitié. Je ne sais pas si vous avez beaucoup d'amis. Faites attention parce qu'avoir beaucoup d'amis, ça peut être un couteau à double tranchant. Ceci dit, la Bible nous parle d'amitié. Pour preuve, lisons simplement qu'un texte biblique, surtout dans le livre des Proverbes, 17, verset 17, ne cherchez pas, je ne ferai que lire, l'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Proverbe 18, verset 24, celui qui a beaucoup de compagnons les a pour son malheur, mais il y a des amis plus attachés que des frères. Proverbe 27, verset 21, les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, tandis que les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Et enfin, Proverbe 27, toujours, mais au verset 10, n'abandonne pas ton ami ni celui de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère le jour où tu es dans le malheur ou la détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Bref, tout ça pour dire qu'il y a dans la Bible un certain nombre de textes, assez nombreux d'ailleurs, qui nous parlent de l'amitié et de l'importance qu'elle revêt dans la vie d'un homme. Quand on parle d'amitié, il est cependant un texte à côté duquel on ne peut passer, c'est celui bien connu d'un Samuel 18, versets 1 à 4, que nous avons déjà lu en introduction à notre trame liturgique ce matin, et nous remercions Raphaël pour cela. Alors que David finissait de parler à Saül, Jonathan s'attacha à lui, Jonathan aima David comme lui-même. Ce jour-là, Saül garda David chez lui et ne laissa pas retourner chez son père celui-ci. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il retira le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, y compris son épée, son arc et sa ceinture. Voilà tout un programme. Un texte intéressant parce qu'il semble contenir les ingrédients d'une fidèle amitié, d'une belle amitié, d'une solide amitié. Et permettez-moi en cet instant de vous livrer quelques-uns de ces ingrédients. En effet, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui fait une véritable amitié? Tout d'abord, une attraction forte. Généralement, lorsque nous sommes unis à un ami, nous partageons avec lui un certain nombre de valeurs, de traits de caractère, d'intérêts, de hobbies, de ce que vous voudrez, dont la résultante finale est la création d'une attraction très forte, irrésistible, entre lui et vous, entre les deux amis. Nous pourrions reprendre les mots de cet adage bien connu, qui se ressemble, s'assemble. C'est tellement vrai. Et vous remarquez que dans le texte que nous avons lu, nous retrouvons cette logique, cet ingrédient. Si nous lisions 1 Samuel 13, versets 1 à 4, nous verrions que si David est capable de vaillance, Jonathan l'est tout autant. Il est capable, avec son écuyer ou son valet ou que sais-je, d'aller affronter 1000 hommes. Vous connaissez le récit. Mais il faut ajouter à la vaillance le courage, car si dans les premières années de la royauté israélite, on parle beaucoup de Saül et de ses victoires, c'est quand même à Jonathan, son fils, qu'il faut les imputer. C'est lui qui, souvent, avec la seule force d'une mâchoire d'âne, va jusqu'à commettre d'ailleurs des choses qui nous paraissent aujourd'hui très violentes. Il est vaillant, il est courageux, tout autant que nous connaissons la vaillance et le courage de David. Mais il est surtout un point sur lequel il ne faut pas nous arrêter. Un lien qui unit David à Jonathan de façon si particulière qu'il crée in fine cette amitié qui nous réunit ce matin, du moins nous intéresse. Et j'aimerais pour cela que nous puissions prendre le texte qui se trouve dans 1 Samuel 14, les versets 6 et suivants. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Celui qui portait ses armes lui répondit, « Fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée, me voici avec toi, prêt à te suivre. S'ils nous disent, « Arrêtez-vous jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent, « Montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. » Nous avons là l'origine, la cause de cette vaillance et de cette force, de ce courage, de cette témérité reconnue chez David et chez Jonathan, la foi en l'Éternel. Qu'il s'agisse de celui qui va succéder à Saül ou bien de son fils, les deux ont d'abord pour ressort premier de leur existence un lien indéfectible à la transcendance. Dans tous les choix de leur existence, dans tous les moments de leur existence, ils n'essaient d'apercevoir d'abord que la volonté de Dieu, et notamment lorsque les moments sont sérieux, ce que nous lisons ce matin. Je crois qu'il y a là une démonstration somme toute évidente de cette attraction irrésistible qui unit les amis et qui se fonde sur le partage d'un certain nombre de valeurs, de vertus, de points de vue, d'idéaux, d'objectifs, etc., etc. Mais nous ne pouvons en rester qu'à ce niveau-là de la reconnaissance et de l'attraction. Il faut appeler un petit peu plus loin lorsque nous parlons d'amitié. Il faut savoir poser des gestes concrets, signifiants et forts. Et encore une fois, dans ce récit, c'est ce que Jonathan fait. D'ailleurs, avant lui, ou après lui, d'autres hommes bibliques agiront ainsi. J'aimerais lire pour vous ce texte emprunté à la première épître de Jean, au chapitre 3, les versets 16 à 18. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et les sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui, petits enfants ? N'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et en vérité. Voilà aussi, je le crois, le ciment d'une amitié. D'ailleurs, que fait Jésus juste avant de donner sa vie pour le salut du monde entier? Nous connaissons tous le récit de l'évangéliste Jean, cette fois-ci, au chapitre 13, les versets 1 à 5. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ce qui lui appartenait dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant le souper. Le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, l'intention de le trahir. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau, etc., etc. Jésus veut démontrer son amour pour ses disciples et à travers lui pour chacun de nous ce matin en posant un geste fort de sens. C'est là la logique de Jonathan. Jonathan donne son manteau. Regardons le geste sous un angle affectif, presque amoureux. Et je ne tombe pas, Dieu m'en garde, dans certaines interprétations actuelle qui laisserait à penser ceci ou cela. Non, je parle d'amitié, mais d'une amitié qui passe bien évidemment par le truchement du sentiment. Et je crois que le manteau qui est donné nous invite à considérer cette émotion, ces sentiments, cet amour qui traverse, qui transporte une amitié. Lequel des amoureux ici n'a pas un jour donné à sa fiancée son manteau parce qu'il faisait froid ? Ou lequel des amis, tout simplement, n'a pas donné à son ou à son ami Ieu son manteau parce qu'il faisait froid? Un geste d'affection, mais un geste qui pose, qui indique, qui parle à la place de la parole et qui démontre toute la force de l'amitié. Ce geste, c'est aussi un signe de protection. On veut indiquer à l'autre qu'on l'aime, mais on veut aussi le protéger d'un danger, d'un ennemi, ne serait-ce que du froid, d'une température basse, et nous en savons quelque chose en ce moment. Je vous rassure, ça va s'arrêter, paraît-il. Vous savez, ça nous rappelle le Christ. La fameuse kénose, le dépouillement de Philippiens, le chapitre 2, les versets 5 à 9. « Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, etc., etc. Jonathan est un type ici du Christ qui se dépouille, qui se donne. Et n'est-ce pas aussi ce que Jonathan dit lorsqu'il donne à David son manteau? Un manteau de prince. Un manteau qui en a probablement coûté. Un manteau de valeur. D'ailleurs, si je pousse le raisonnement plus loin, je peux dire qu'à travers le don de ce manteau, c'est aussi l'élévation sociale de David dont il est question. Après tout, qu'est-ce que David à ce moment-là de son histoire, si ce n'est ce berger valeureux, celui qui a terrassé Goliath? Mais il n'est encore que le fils d'Ésaïe, qu'un jeune berger, au beau visage, nous dit la Bible. Lorsque Jonathan lui donne son manteau, il y a une passation de pouvoir, il y a une passation de statut. Ce n'est plus moi le prince, c'est toi. Et encore une fois, nous en revenons à l'intuition spirituelle de Jonathan, qui a compris ce que son père ne veut pas comprendre. La royauté a passé de main. Elle n'est plus chez Saül et son fils, elle est chez David maintenant et sa lignée. Et plus vite nous le comprendrons, mieux nous en porterons. Voilà aussi le sens que nous devons donner à ce manteau donné. Voilà tout le poids d'une amitié. D'ailleurs, vous remarquerez que ce n'est pas que le manteau qui est donné. C'est aussi l'épée, l'arc et la ceinture. Je me livre à toi. Tout ce qui me permet de me défendre, tout ce qui m'a permis d'être ce héros valeureux, tout ce qui permettait in fine de m'identifier à toi au point de provoquer cette amitié, eh bien je te le donne. Je me mets nu devant toi. Moi qui suis prince, je fais de toi mon prince et deviens ton vassal. Voici aussi un trait fort, une caractéristique forte de l'amitié qui unit Jonathan à David, qui d'ailleurs nous invite à réfléchir à la nature et aux motivations profondes des amitiés que, à notre tour, nous nourrissons dans notre vie avec les autres. Lorsque nous nous lions d'amitié, sommes-nous capables de ce dépouillement? Sommes-nous capables de nous abandonner, de tout abandonner pour que l'autre soit élevé? Ou bien à travers la création de certaines amitiés, finalement, ne cherchons-nous pas le contraire? Il me semble que ce que cette histoire entre Jonathan et David nous indique est bien là. Un autre ingrédient. Après avoir vu cette attraction qui repose sur un partage d'éléments communs, après avoir vu qu'une amitié reposait aussi sur des gestes forts, des gestes qui symbolisaient une capacité à se donner, parlons aussi de fidélité et de loyauté sans faille. Je ne sais pas si certains ont vu le film « La 9e Légion », qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près une année. Et c'est un film très intéressant qui, au-delà de l'histoire de cette légion romaine, la 9e en l'occurrence, a l'avantage de présenter une amitié solide entre le centurion de cette légion et son esclave. Et de voir à un moment donné un inversement des rôles. En effet, quand ce centurion part dans une contrée qui n'est pas encore conquise par la Rome antique, voilà que l'esclave doit jouer le rôle du maître et le maître le rôle de l'esclave. Et à un moment donné, l'esclave a la possibilité de terrasser son maître. Mais il ne le fait pas pour une seule et bonne raison. Il s'était au préalable engagé dans un pacte d'amitié. Ça me fait penser aux samouraïs. Les samouraïs qui avaient juré fidélité et donc quelque part amitié à l'empereur. Et qui, lorsqu'ils échouaient, se faisaient harakiri. Vous savez, un jour, David va rendre la monnaie de sa pièce à Jonathan. Il va la rendre à travers le fils de Jonathan. Vous connaissez l'histoire. Jonathan sera l'ami indéfectible de David, mais Jonathan, c'est aussi le fils de Saül et la lignée de Saül doit disparaître. Jonathan meurt. Mais Jonathan meurt en laissant quelques enfants, notamment un dénommé Mephibosheth, estropié des deux pieds, nous dit le texte biblique. Et voilà qu'un jour, David fait demander à ses conseillers, ou l'un d'entre eux particulièrement, s'il existerait des restes de la lignée de Jonathan pour faire du bien à la maison de Saül. Quel beau geste! Et voilà qu'on lui amène Mephibosheth. Et il donne à Mephibosheth non seulement toutes les terres de Jonathan, mais toutes celles de Saül. Et une seconde fois, alors que les Gabaonites demanderont à cause du mal que Saül leur avait fait, que les descendants de cette lignée soient supprimées, du moins qu'elles leur soient livrées, David protégera Mephibosheth au nom de son amitié pour Jonathan. Une amitié, c'est aussi une fidélité. C'est aussi être capable, même après la mort, de se souvenir de la parole engagée à travers elle, de cette amitié qui nous liait. Voilà quelques ingrédients qui nous permettent de définir non seulement l'amitié qui unit David à Jonathan, mais quelque part les amitiés qui nous unissent à ceux que nous considérons être nos amis et pour lesquels nous le sommes. Mais essayons maintenant de déterminer l'intérêt d'une amitié. Est-ce que j'appellerais l'intérêt supérieur ? Il me semble qu'il n'y a pas de plus beau contexte relationnel que celui d'une amitié véritable, du genre de celle de David et Jonathan, pour nous aider à vivre au mieux ici-bas le fameux commandement de Jésus. Vous connaissez tous ce commandement, Matthieu 22, versets 36 à 40. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième. « Qui lui est semblable ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, toute la révélation, l'Ancien, le Nouveau Testament. Je crois que l'amitié, c'est le cadre relationnel qui nous permet au mieux, probablement, lorsqu'elle est vraie, lorsqu'elle est sincère, cette amitié, de nous acquitter, si on doit utiliser le mot, de ce commandement que le Christ nous donne ici. Voilà aussi pourquoi essayer de définir tous ces ingrédients qui permettent une véritable amitié et les intégrer dans la marmite de nos êtres afin de produire la recette la meilleure qui soit et à travers elle l'amitié la plus fidèle, la plus fine, la plus belle, la plus émotionnelle, comprenons affective qui soit. Je serais aussi tenté de dire que l'amitié est utile pour nous, et notamment pour le besoin d'estime de soi que nous avons tous, besoin légitime. J'aimerais simplement vous lire une histoire que j'ai trouvée hier en préparant ce que je vous dis et que j'ai trouvée très belle. Un jour, durant mes premières années de secondaire, j'ai aperçu un gars de ma classe qui retournait à la maison après l'école. Il s'appelait Kyle. On aurait dit qu'il transportait tous ses livres et son matériel scolaire. Je me suis dit, pourquoi quelqu'un apporterait-il tous ses livres un vendredi soir ? Ça doit être un nerd. Vous savez ce que c'est qu'un nerd ? En anglais, c'est un, comment dire ça en français ? Une tête de premier de la classe. Il y a peut-être une autre traduction, aidez-moi. Un faillot. Je n'osais pas le dire, vous l'avez fait pour moi, merci. De mon côté, j'avais tout un week-end de planifié, sorti et parti de football avec mes amis. Comme je passais près de lui, un groupe de jeunes ont commencé à se moquer de Kyle. Ils le pinçaient et l'ont fait tomber, ont fait tomber ses livres, ils l'ont même poussé dans la boue. Quand il est tombé, ses lunettes ont atterri quelques pieds plus loin, dans le gazon. Kyle a levé la tête et j'ai vu combien il était triste et désorienté. J'ai vraiment ressenti un élan de pitié pour lui. Alors j'ai couru jusqu'à lui et j'ai ramassé ses lunettes. Lorsqu'il a levé la tête vers moi, j'ai vu quelques larmes dans ses yeux. Ces gars-là étaient vraiment des imbéciles, lui ai-je dit. Il m'a regardé et m'a remercié. Il avait un énorme sourire dans lequel on pouvait voir toute la gratitude du monde. En l'aidant à ramasser ses livres, je lui ai demandé où il habitait. J'ai été surpris de voir qu'il habitait tout près de chez moi. Je ne l'avais jusque-là jamais vu. Il m'a alors expliqué qu'il allait auparavant dans une école privée. Je ne pensais jamais un jour être copain avec un faillot. Nous avons parlé tout au long du chemin, il s'est révélé être un très bon gars. Je lui ai alors demandé s'il voulait venir jouer au football avec mes copains et moi le lendemain. Il s'est empressé d'accepter. Nous avons donc passé le week-end ensemble et plus le temps avançait, plus je me rendais compte que Kyle était vraiment quelqu'un de bien. D'ailleurs, mes amis pensaient aussi qu'il était quelqu'un de bien. Le lundi matin, j'ai encore aperçu Kyle qui est retourné à l'école avec sa pile de livres toujours sur son dos, dans son sac. Je l'ai rejoint encore une fois et lui ai dit « Waouh, tu finiras par avoir des muscles d'acier à trimballer tes livres comme ça. » Il a bien ri et m'a passé la moitié de ses livres. Durant les années qui ont suivi, nous sommes devenus les meilleurs copains du monde. Kyle était vraiment un élève très intelligent. Il voulait faire sa médecine, tandis que moi, j'allais finalement à l'université grâce à une bourse de football. Vous comprenez que l'histoire est américaine. Je l'engageais tout le temps en lui disant qu'il n'était... Je l'ennuyais, je me moquais gentiment de lui en lui disant qu'il était un nerd, un faillot. Pour notre graduation, l'examen final... Le baccalauréat, nous dirons en français. Kyle devait préparer un discours. J'étais bien content que ce ne soit pas moi. Kyle était devenu un jeune homme bien dans sa peau qui plaisait beaucoup aux filles. D'ailleurs, il faisait beaucoup plus de conquêtes que moi. La journée de la graduation, je voyais bien Kyle nerveux. Pour le rassurer, je lui ai donné une bonne tape dans le dos en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu vas être génial comme tu l'es toujours. » Il m'a encore regardé avec un de ses regards, celui de plein de gratitude, et m'a remercié. Lorsqu'il est arrivé devant le micro, il s'est éclairci la gorge et a commencé son discours. Une graduation, c'est le moment idéal pour remercier tous ceux qui nous ont aidés. Durant toutes nos années du secondaire. Nos parents, nos professeurs, nos entraîneurs, mais surtout nos amis. Je suis ici pour vous dire qu'être l'ami de quelqu'un, c'est le plus beau cadeau qu'on peut lui donner. Je vais vous raconter une histoire. J'étais vraiment très surpris lorsqu'il a commencé à raconter notre première rencontre. Mais j'ai été encore plus estomaqué lorsqu'il a raconté que cette fameuse fin de semaine-là, il avait prévu de se suicider. C'est pourquoi il avait apporté tous les livres qui normalement étaient dans le casier d'école, pour que sa maman n'ait pas, après son décès, à aller nettoyer son casier. Il m'a regardé et m'a fait un sourire. Heureusement, j'ai été sauvé. Mon ami m'a empêché de commettre l'irréparable. J'ai entendu le silence provoqué par son discours dans la salle. Le discours d'un jeune homme distingué, beau, intelligent et populaire. Je me suis retourné et j'ai vu ses parents qui m'ont souri avec le même regard plein de gratitude que Kyle avait eu à mon égard. Je n'avais jamais réalisé à quel point cette journée avait été bienfaitrice pour lui. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de vos actions. Avec un simple petit geste, on peut changer la vie d'une personne. Avec une amitié solide, on peut ressusciter un mort. L'amitié nous donne, je le disais, ce dont nous avons essentiellement, fondamentalement besoin, une bonne image de soi. Elle nous aide à nous estimer et il est bon de s'apprécier, de se trouver beau, grand et fort, même si on ne l'est pas. On fonctionne comme ça. Et mettons de côté toute idée chrétienne, d'ailleurs, qui ne l'est pas, qui laisserait à penser qu'il faut s'immoler sur l'autel de l'abnégation totale du moi, de l'être. Parce que Christ s'est dépouillé et que nous devons en faire ainsi. Ce n'est pas ça le dépouillement du Christ. Nous sommes invités à considérer les images de Dieu que nous sommes. Et même si ces images sont corrompues, n'oublions jamais que par la conversion, par le don de l'Esprit Saint, il y a possibilité d'une reconstruction, d'une résurrection, d'un relèvement. C'est bien là le sens du mot ressuscité. Et une amitié contribue particulièrement à nous aider dans ce sens. Si nous voulons grandir spirituellement, émotionnellement et même physiquement, je pense à ce texte de Paul, 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, si tout cela, ou si à tout cela, nous voulons donner la possibilité d'une croissance indéfectible, constante, une solide amitié ne sera pas de trop. Et enfin, et j'en termine, car le temps avance, pardonnez-moi. Amitié rime aussi avec mission. Marc 2, les versets 1 à 12, je ne vais pas lire le texte parce qu'il est long, mais vous vous souvenez probablement de ce miracle extraordinaire que Jésus, un jour de sabbat, je le crois, réalise. Il est dans une maison, il parle à une foule qui se trouve dans la maison, mais aussi à l'extérieur, et voilà qu'à un moment donné, certaines personnes démontent le toit de la maison pour descendre, à l'aide de leurs bras forts, un paralysé qui, depuis des années, ne peut plus bouger. Et vous connaissez le reste de l'histoire, le miracle a lieu, avec au passage une petite polémique, les juifs orthodoxes qui sont là reprochent à Jésus d'avoir dit avant de réaliser le miracle qu'il pardonnait aussi les péchés de celui-là. Mais la question que nous devons nous poser n'est pas celle-là, ce matin en tout cas. S'il n'avait pas eu des amis pour l'amener à Jésus, qu'en serait-il de notre paralysé ? Je crois qu'il le serait resté tout le temps de sa vie d'Israélite. Mais surtout, je crois qu'il n'aurait jamais été conduit vers le Christ, car n'oublions pas que cette guérison est le symbole d'une guérison ô combien plus importante, la guérison de l'âme, la guérison de l'être, synonyme de salut et de vie éternelle. Une amitié, c'est aussi important pour pouvoir témoigner. Et que ce soit vous les exploits, que ce soit nous les plus anciens, c'est toute la logique de l'opération André. Tissons, créons de solides amitiés tout simplement pour pouvoir témoigner. Allons, faites de toutes les nations des disciples, et bien commençons par nos amis. Amen.